Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est l'heure de l'invité du 12-13. Votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Christine Lambert-Liamas, danseuse professionnelle, professeure de danse, fondatrice de l'association Chorégraphia. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, et je vais merveilleusement bien.
Très bien. Parfaitement. J'ai l'impression de recevoir une hôtesse de l'air parce que là, ça marche. Hein. Ça marche très bien.
C'est génial.
Ça marche très bien.
Parfait.
C'est parfait. On va passer une petite heure ensemble. On va découvrir un peu votre histoire, votre passion et ce que vous vivez. Hein. Ça fait partie intégrale de votre vie, on peut le dire. On va d'abord écouter quelque chose de moins gai, hein, le flash info national et international. Et on se retrouve tout de suite après pour la première partie de cette émission. Nous voilà de retour avec Christine Lambert-Liamas. Alors on va commencer par découvrir d'abord qui est Christine, son histoire et sa trajectoire qui l'a conduit à notre micro aujourd'hui. Si vous nous en parlez un petit peu.
Avec plaisir. Moi, vous savez, j'ai la sensation que mon chemin était tout tracé pour la danse. J'ai une anecdote à vous confier. Pour commencer, en fait, ma mère avait l'habitude, avant de m'avoir, hein, d'aller... elle avait des amies qui étaient foraines. Mmh. On n'était pas dans le même département et faisait la bonne aventure, on va dire.
Ouais.
Et elle avait dit à ma mère à l'époque, donc il faut se replacer dans le contexte, hein, il n'y avait pas les échographies, on ne savait pas le sexe des enfants, etc. Elle avait dit oh, mais vous aurez une fille et il faudra lui faire de la danse parce qu'elle en fera son métier. Bon, c'était quand même, oui, c'était assez stupéfiant, d'autant que c'est une information que ma mère m'a confiée bien plus tard. Il n'a pas du tout influencé, vous voyez, ça aurait pu influencer. Et puis, elle n'a pas forcément voulu à tout prix que je fasse la danse. C'est vraiment moi qui chez ma grand-mère, très jeune, dès que j'ai su tenir sur mes jambes, commencer à bouger, à prendre des vieux rideaux, des vieux vêtements, et à me déguiser, et puis à regarder les émissions qu'il y avait à l'époque à la télévision, où il y avait des chansons, de la danse, Mariti Gilbert Carpentier, qui a bercé mon enfance.
Ah, et mais oui.
Voilà, et
c'est vrai,
tous les samedis.
Époque, hein, oui. C'est vrai, oui.
Et je dansais, ce qui fait que, à l'âge de 4 ans, elle m'a mis à la danse, en fait, tout de suite, parce qu'elle voyait que j'avais vraiment envie de faire ça. C'était tellement une évidence. Et puis, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai jamais arrêté. Et puis, à l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu suivre les pas de mon professeur de l'époque, sur Bordeaux, de me diriger vers l'enseignement. Tout de suite, c'est pas forcément être danseuse que je voulais faire, c'est vraiment la transmission qui m'intéressait, trouver des clés de transmission pour faire comprendre le mouvement, le partage, etc. Donc j'ai fait une formation et puis voilà, et je suis devenue professeure, mais on ne devient pas professeur tout de suite, hein. C'est pas forcément le diplôme qui crée le professeur, c'est le diplôme, c'est important, c'est sûr, la formation est importante, mais... Après, progressivement, au fil des ans, des rencontres que j'ai pu faire, parce que je n'ai pas travaillé tout de suite ici. Je suis arrivée ici en 98. Donc, je me suis enrichie de plein de styles différents. Hein. J'ai commencé par le cursus, on va dire, normal, danse contemporaine, danse classique, moderne jazz. J'ai exploré aussi les danses africaines, le hip-hop, les danses urbaines et les claquettes également. Et puis, quand je suis arrivée dans la région, j'ai commencé à explorer les danses de couple, qui ont beaucoup enrichi ma vie de femme et également ma vie de professeur, de danseuse. Et j'ai avancé sur ça, j'ai évolué avec ça jusqu'à présent, en fait. Voilà, où je me suis intéressée à la transmission de cet art d'un point de vue thérapeutique. Voilà à peu près le parcours.
Très bien. C'est l'ADN, hein, ça. C'est l'ADN qui parle, en tout cas.
C'est ça, je crois.
Il semblerait. Oui, alors, danse de couple, oui, d'ailleurs, en parlant, ça vous a créé un couple, hein, d'ailleurs, avec votre mari.
C'est vrai. Oui. C'est vrai.
Alors, c'est vrai que danse de couple, moi, j'aurais tendance. Enfin, vous appelez ça danse de couple, donc c'est les danses comme le tango.
Oui,
la valse.
J'aime bien utiliser ce terme.
Parce qu'on ne dit pas danse de salon, des fois.
Alors, effectivement, on dit danse de salon, danse de société, danse standard. Il y a plusieurs termes. Moi, j'aime bien employer danse de couple parce que ça regroupe tous les styles de danse à deux, on va dire, ou danse à deux, c'est bien aussi. Je ne fais pas trop de différence avec la terminologie. Danse de couple, effectivement, c'est tout ce qui est valse, cha-cha-cha, tango, rock, salsa, bachata, toutes les danses anciennes, hein, et puis les danses un peu plus récentes comme l'explosion de la bachata qui s'est répandue il y a quelques années.
Oui, c'est vrai qu'il y a des phénomènes de mode.
Voilà, donc toutes ces danses qui sont arrivées donc, d'Amérique et qui sont venues ici.
Ouais.
Toutes ces danses-là ont enrichi ma vision de la danse et du corps et de la connexion à l'autre, de la communication à l'autre. Ça a été assez intéressant pour moi et ça m'a permis d'enrichir aussi ma danse individuelle et inversement. Donc ça a été de très très belles expériences en effet. En effet.
Très bien. Alors, on va parler aussi un petit peu de chorégraphie. Alors, comme on est à la radio, les gens n'entendent pas forcément l'orthographe. Hein. Donc, ça s'écrit en deux mots, corps et ensuite graphia.
C'est ça.
Voilà. Donc, on en a parlé un petit peu en antenne. Voilà, c'est un petit peu une manière de voir aussi les choses. C'est se dessine dans l'espace des mouvements qui laissent derrière eux des traces, des images ou des textes.
Oui, pour moi, c'est très important. Mm-hmm. Le mouvement est très important. Donc, corps et graphia, c'est le corps, hein, dans un premier temps. J'ai créé l'association en 2000. Je suis arrivée dans la région en 98, j'ai créé l'association en 2000 et voilà, ben on est en 2026. Et l'association a pris de nouveaux axes. J'ai eu une école pendant longtemps et maintenant je suis plus en déplacement. Enfin, je suis plus nomade, nomade avec mon entreprise, mon entité qu'est Chorégraphia et qui s'est déployée sur la danse thérapeutique, la danse thérapie, la danse bien-être dans différentes structures. Parce que je me déplace beaucoup. Et comme je vous disais tout à l'heure, Jean-Philippe, c'est vrai que les ramifications de mon entreprise, de mon entité, vont jusque dans des endroits où on ne pense pas que la danse puisse aller, donc vers les seniors, vers des personnes très âgées, en dépendance, en très grande dépendance, au village Zelmer de Dax, à l'hôpital thermal, au CCAS aussi de Dax, vers des personnes seniors, des personnes qui n'ont jamais fait forcément de danse de leur vie, qui ont du mal avec leur corps, qui veulent reprendre confiance, donc dans des structures atypiques, mais je trouve que ça a beaucoup de sens.
On va détailler ça un petit peu plus tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Effectivement, comment dire, la danse, vous avez été, vous êtes toujours professeur.
Oui.
Mais alors, vous en avez dû en former pas mal de gens au cours du temps.
Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, des personnes qui sont professionnelles maintenant.
Oui, voilà, c'est ça, le retour. Du coup, le retour sur investissement, vous le voyez maintenant, qu'est-ce que ça vous dit?
Moi, je suis ravie de... Oui, effectivement... J'ai travaillé 8 ans en Charente avant d'arriver ici et j'ai pas mal d'élèves là-bas qui sont maintenant professeurs. Donc je suis très fière de leur parcours et d'avoir pu insuffler cette passion. Et également ici, bien sûr, oui, j'ai des anciennes élèves mais qui sont maintenant danseuses ou professeurs. Donc je trouve que c'est chouette justement qu'il y ait pu avoir cette descendance, un peu, c'est comme une filiation.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et même si des personnes ne sont pas devenues professionnelles et ne le seront jamais, qu'importe. La graine se plante à chaque fois.
Oui, alors moi, j'ai une petite question parce que j'ai déjà reçu des danseurs sur Soustonks, etc. Il y a toujours la question, même si c'est essayer d'éviter de genrer les choses, mais on a l'impression souvent que ça concerne plus... Les filles que les garçons, statistiquement. Donc, quel en est-il d'après vous? Est-ce que c'est une conséquence de la société? Est-ce que c'est vraiment un choix intrinsèque? D'où ça peut venir cette...
Oui, c'est sociétal, je pense, c'est sociétal. Je me suis rendu compte, pour avoir travaillé dans plusieurs départements différents et pour encore travailler dans plusieurs départements différents et travailler dans des villes plus petites, des villages même, quand j'étais en Charente, j'allais dans des endroits... très ruraux où les gens ne savaient même pas ce que c'était vraiment que la danse, donc j'étais contente de pouvoir faire découvrir. Dans des grandes villes, c'est plus facile d'amener, j'ai l'impression que c'est plus facile d'amener les hommes à la danse. Dans les villages ou dans des régions comme les Landes peut-être ou la Charente à l'époque, il y a un ancrage à la culture.
Oui, il y a déjà les danses traditionnelles.
Oui, il y a un ancrage à la culture qui est déjà... qui est déjà quand même bien enraciné. Ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rugby, beaucoup de sport, et les garçons, ben voilà, on les met au sport. Je pense que c'est sociétal. Effectivement, il y a moins de garçons que de filles qui vont vouloir faire de la danse. Et puis, j'ai eu des élèves, des garçons, hein, où ça a été très compliqué à l'école. Hein, oui. Dont un, j'ai le souvenir d'un qui est maintenant danseur pro. Qui cachait ses chaussons dans son cartable parce qu'il avait cours le mardi soir avec moi et il allait directement en cours de danse classique avec moi et il était moqué. Bon, au bout d'un moment, les copains ont vu qu'il y avait des chaussons. Il était moqué, il a tenu bon, mais il y a d'autres enfants qui ont pas eu forcément cette force. Ouais. C'est difficile. Et puis aussi, ça dépend du contexte familial.
Oui,
mon mari, par exemple, est danseur depuis toujours, il a fait le conservatoire, etc. Ses parents ne l'ont pas empêché. Au contraire, ils ont galvanisé cette envie. Comme moi, ils regardaient les comédies musicales à la télévision. On a un peu les parcours similaires, alors qu'on n'était pas du tout dans les mêmes régions. On ne se connaissait pas, bien sûr. Et il a eu la chance d'avoir une famille, une mère et un père qui l'ont porté. Donc, ça influence énormément.
Bien sûr.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je vais pas parler de chance, forcément. Je vais parler que c'est pas simplement le cas. Y a des parents qui souhaitent que les filles fassent de la danse ou de la musique et puis que les garçons fassent de la musique ou du rugby ou du sport. Et ça influence quand même un enfant énormément. Donc, c'est des cheminements propres. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes commencent la danse plus tard. À 30, 40, 50 ans, ils souhaitent faire de la salsa et du rock. Ça passe plus facilement que je vais faire danse classique.
Ouais,
c'est
peut-être,
sûr.
Ouais.
C'est... Mais je trouve qu'on progresse quand même, parce que c'est médiatisé de plus en plus, par la télévision, etc. On n'est pas encore arrivé à un point où je souhaiterais, mais...
Alors je pense, parce que ce problème avec le territoire et les clichés masculinistes, je pense aux colosses aux pieds d'argile...
Une
association, ben là c'est les colosses aux chaussons de danse.
Aux chaussons de danse.
Voilà, on pourrait faire ce parallèle. Voilà, comme quoi, quiconque, les hommes aussi ont le droit de faire de la danse et il n'y a pas à subir des pénalités sociales à cause de ça, bien entendu.
Bien sûr, et puis moi j'ai quand même des hommes qui viennent me voir qui veulent apprendre le rock parce qu'ils n'ont pas envie de faire banquette quand ils vont en discothèque ou dans des bars dansants. Donc, ça leur donne une contenance et puis ça leur permet de s'affirmer en tant qu'homme pour aborder simplement une femme, comme à l'époque dans les bals où nos grands-parents allaient.
Mais oui, c'est ce qui se faisait.
C'était des rencontres qui se faisaient au bal et j'ai eu ce genre de discours, et d'avoir plus de confiance et de pouvoir un peu, entre guillemets, épater une femme qu'ils ont peut-être envie d'aborder. C'est peut-être plus facile et plus crédible de l'aborder en l'invitant à danser. Que en lui payant un verre, je sais pas.
Mais... C'est plus sympa que Tinder quand même.
Je crois.
Je pense.
Je crois.
Je pense, oui, voilà. Bon, on va faire notre première pause. On va écouter un petit peu de musique dont on parlera d'ailleurs au retour. J'en avais discuté avec notre invité hors antenne. Elle a une petite signification particulière. On voit qu'on est. Les autres humains ne sont pas les seules personnes concernées par ce rythme qui fait battre nos cœurs. À tout de suite.
C'est ça.
Et nous voilà de retour avec notre invité Christine Lambert-Yamas. Alors, on a écouté Iggy Pop. Alors, voilà.
Un super rock, Jean-Philippe.
Voilà, bon, c'est Iggy Pop. J'adore. C'est sympa. Hein. Mais la raison principale pour laquelle j'ai passé ce morceau, c'est qu'il y a des vidéos qui tournent sur internet. Il a un très beau cacatoès blanc et en fait il lui met un morceau de musique et le cacatoès se met à hocher de la tête et à danser. Et c'est là qu'on se dit, ah mais mince, on croit toujours avoir l'exclusivité sur plein de choses, nous les êtres humains, mais cette impulsion, cet anima, certains animaux l'ont aussi, on n'est pas les seuls à l'avoir, ce sentiment.
Mais vous avez raison, Jean-Philippe, c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs vidéos de cacatoès, c'est vraiment extraordinaire de les voir bouger et en rythme. Mais je pense que la musique génère très 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 vite le mouvement chez tout le monde, chez un enfant.
Un enfant, oui, c'est instinctif. Oui,
chez les personnes plus âgées, tout le monde, ne sachant ou ne sachant pas danser parce qu'ils n'ont pas pris de cours, qu'importe, tout le monde bouge. C'est naturel, c'est un mouvement naturel, primitif. Donc ça, c'est on l'a, moi j'ai envie de dire, on l'a dans notre ADN. Tout le monde a ce gène-là.
Oui, non, c'est possible.
Et effectivement, on voit les répercussions de la musique sur, sur les animaux, donc sur en l'occurrence ces cacatoès et d'autres animaux également, et d'autres animaux. Donc extrêmement intéressant et je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'inspirer de la gestuelle des animaux pour justement amener un mouvement et puis imager un mouvement pour que ça soit simple à reproduire ou simple.
C'est ce qu'on fait dans les arts martiaux, des fois le kung fu, il y a beaucoup de techniques d'arts martiaux qui imitent certaines postures de certains animaux.
Oui, tout à fait, en yoga également et en tai chi chuan également, bien sûr.
Il ne faut pas oublier qu'on est des animaux en fait, non mais il ne faut pas qu'on ait honte de le dire de temps en temps, nous sommes des animaux, voilà.
Oui, voilà, nous sommes des êtres primitifs.
Ça dépend des moments, mais c'est vrai, mais voilà, il faut l'assumer en tout cas, c'est pas en rejetant ça. Oui, voilà, donc... De la même manière que la musique a une empreinte dans la tête de beaucoup d'êtres humains et d'animaux, c'est la manière dont les notes se font, les majeures, les fondamentales, les tierces, que ça.
Oui, le son voilà. est très important.
Ouais, mais le mouvement aussi, comme vous disiez, le mouvement fait partie aussi de notre horloge commune.
Le son va être un support pour amener le mouvement. On peut tout à fait aussi amener le mouvement en silence. Utiliser le silence, pour nous danseurs, c'est aussi un son. C'est aussi un support très intéressant, pour mettre en valeur le mouvement, écouter les battements de son cœur, écouter le silence. Ça peut amener des choses très intéressantes, par exemple en danse contemporaine.
Il peut y avoir de la danse sur des silences dans certaines parties
contemporaines. Oui, beaucoup, ça se fait beaucoup.
D'accord.
Oui, on exploite beaucoup ce support-là. C'est pas parce qu'on n'entend rien qu'il se passe rien.
Oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Et c'est, même en danse, c'est pas parce qu'on va suspendre le mouvement pendant 1, 2, 3, 10 secondes qu'il se passe rien. Au contraire, il y a des choses qui se passent à l'intérieur et qu'on va transmettre par une suspension, par un silence. Donc c'est extrêmement intéressant, on pourrait en parler des heures.
Non mais c'est intéressant, j'ai failli oublier que la danse était un art, mais bon, vous m'avez rappelé à l'ordre.
Ah oui.
non mais voilà, justement, et puis l'intensité, bien souvent les choses que l'on ne dit pas ou que l'on suggère sont entendues beaucoup plus fortement que celles que l'on dit directement.
Dans tous les cas, le public va même s'il ne comprend pas forcément tout de ce qui est proposé, son inconscient va comprendre. Ça passe directement dans l'inconscient et ça raconte une histoire silencieuse.
Ouais, c'est donc, en ça que c'est un art, comme un art pictural ou quel qu'il soit.
Oui.
Effectivement. Mais très bien, merci pour le rappel à l'ordre. on va faire une deuxième pause, on va écouter le Flash Info local et on va parler de vos autres activités, parce que vous avez des actualités aussi, vous faites plein de choses, des festivals. Voilà, on va pouvoir détailler un peu tout ça, on se retrouve après cette pause.
Ok.
Nous voilà de retour après un autre David que le nôtre, c'est le Bowie celui-là. Bon, mais... Et il est bien aussi le nôtre, il n'y a pas de souci.
Il est super ce David que vous avez.
Oui, très bien, c'est vrai. on va parler un petit peu d'une compagnie, l'Épaulette. Alors c'est en deux mots, c'est pas l'Épaulette, c'est le cas le général, mais c'est l'Épaulette, le prénom.
J'y avais pas pensé, Jean-Philippe.
Ah bah, c'est parce que j'ai des vieilles blagues dans ma tête, je suis désolé.
Oui, l'Épaulette, alors c'est une compagnie de danse contemporaine semi-professionnelle, inclusive, qui est soutenue par la ville de Saint-Paul-les-Dax, dont je suis, où j'habite, depuis maintenant 2 ans. Donc on est en résidence une fois par mois, depuis 2 ans, au Théâtre Félix Arnaudin, pour faire travailler justement un groupe, une troupe de danseuses, dans des conditions professionnelles. Dans un théâtre avec des répétitions intensives. Donc on gère ça avec ma collègue Diane Jean-Mathieu, qui est donc la chorégraphe et l'initiatrice de ce projet. Voilà, elle a eu l'idée de créer un groupe de danseuses il y a 2 ans. Et on a soumis le projet en mairie, qui a été reçu avec enthousiasme. Et depuis 2 ans, Diane a créé, puisqu'elle est donc professeure comme moi de danse, elle est maître yoga, elle a beaucoup de casquettes, elle a beaucoup de cordes à son arc, elle est chanteuse, danseuse, elle a sa propre compagnie de danse professionnelle dont je suis danseuse et répétitrice. Donc moi dans ce projet l'Épaulette, donc l'Épaulette c'est un clin d'œil en fait à la ville de Saint-Paul-les-Dax, voilà, elle est donc chorégraphe, elle a déjà créé une pièce l'année dernière et donc cette année elle a créé un diptyque chorégraphique, mmh. avec une première partie qui s'appelle Rock et une deuxième partie qui s'appelle C'était avant. Donc ce sont deux pièces très différentes. Rock, eh bien, bah, comme la roche, mmh. mais aussi comme le rock and roll que vous aimez beaucoup, Jean-Philippe.
Oui, un peu.
Voilà, avec des morceaux donc pris sur certaines périodes, en fait. Et la deuxième partie, C'était avant, c'est essentiellement des morceaux d'antan. Alors Aznavour, Piaf, Juliette Gréco, etc. Donc là, on est en finalisation en fait de C'était avant. Et donc moi, je suis répétitrice et directrice artistique d'Épaulette depuis 2 ans. Donc c'est-à-dire que je vais soutenir Diane ou faire revoir des choses aux danseuses, m'occuper de toute la logistique de la compagnie. Donc on est très très contente du groupe qu'on a créé. Alors des danseuses, on a un noyau dur depuis l'an passé, et puis d'autres danseuses sont venues rejoindre, d'autres sont parties par obligation professionnelle, etc. Mais il y a un noyau, donc c'est une compagnie qui est ouverte eh bien à tous, hein, inclusive. Dans le sens inclusif, ça signifie que tout âge, qu'importe la morphologie, la taille, le vécu et l'expérience. La seule condition, c'est de prendre des cours de danse, bien sûr, chaque semaine, de manière quotidienne. L'engagement, la motivation de vouloir faire partie de l'aventure, d'être disponible, bien sûr, hein, parce que nous avons un calendrier de répétition pour les créations et un calendrier de spectacle. Donc la première de Rock et de C'était avant s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, le 26 février, lors, comme l'année dernière, de la dizaine au féminin, qui est une thématique. Hein,
Quatrième édition, je crois.
C'est ça, exactement. Donc on a fait l'ouverture, la dizaine au féminin, comme l'an passé. Donc, et on a joué donc les pièces chorégraphiques là où les pièces ont été créées, puisqu'on répète dans des conditions sur scène, en fait. Donc dans le format en fait de ce petit théâtre, voilà. Et on délocalise bien sûr parce qu'on va pouvoir danser. Les Paulettes vont danser au Village Elzheimer, à Saint-André-de-Seignanx, et on a aussi un projet à la médiathèque de Narros au mois de novembre, puisque une attachée culturelle est venue voir les Paulettes sur la dizaine au féminin et a été très emballée par ce qu'elle a vu et nous a programmé donc. Voilà, pour le mois de novembre, donc on est très contents.
Ça s'appelle une tournée, ça, hein ?
Carrément.
Ah ben oui, c'est super.
Carrément.
Ben oui. Alors voilà, vous parliez tout à l'heure dans votre présentation de ce partage. Hein. Donc effectivement, vous avez plein d'actions avec... c'est une compagnie qui est inclusive. Et puis, on a parlé du village Alzheimer, où il se passe de plus en plus de choses. Et ça, c'est vraiment chouette. Hein.
Oui.
Vous avez aussi des participations avec le CSAS, Thermadour aussi.
Oui.
Donc vous faites danser des gens qu'on ne s'attend pas forcément à voir danser.
C'est vrai,
c'est pas mal,
c'est
ça.
Vrai. Donc je m'insinue, je m'insère avec plaisir. Donc le tangothérapie, effectivement, au village d'Elmer est tout récent. Bon, j'avais déjà fait des cours de tangothérapie, animé des cours de tangothérapie avant le Covid. J'avais un groupe et là, j'ai fait cette proposition donc à Florent Diart, qui dirige le village. Et il a été très, très enchanté, très emballé par le projet. Donc de manière régulière, avec mon mari, qui est danseur de tango argentin et professeur comme moi, on dispense des cours là-bas, le samedi matin, auprès des résidents. Donc, c'est une aventure très forte. Et les Paulettes, depuis l'année dernière, viennent bénévolement danser les nouvelles pièces. D'ailleurs, la Rock et C'était avant vont être jouées donc, à l'auditorium de Village Alzheimer le 26 avril. Donc, c'est bientôt. Voilà, il y aura un premier spectacle le matin pour les extérieurs et un deuxième spectacle à 15h ce dimanche 26 avril uniquement réservé pour les résidents. On leur offre justement ce spectacle avec un bord de scène. On a l'habitude de faire beaucoup des bords de scène avec Diane pour que les personnes puissent s'échanger avec avec nous, poser des questions sur le métier. Voilà. Et donc, Diane ayant sa compagnie de danse flash, dont je suis répétitrice et danseuse également, il y a un projet fort aussi qui est en train de germer, où les résidents vont pouvoir participer à la pièce chorégraphique de Diane. Donc ça, ça va être, je pense, très fort en émotion. Mmh. Et donc, c'est un projet participatif, oui. Chorégraphique.
Alors, ça va être un petit challenge quand même, ça, de se dire, bon, voilà, parce que...
Ma collègue a l'habitude, elle est art-thérapeute et elle est formatrice donc, à Toulouse en danse-thérapie. Et je suis sa formation donc, depuis l'année dernière.
Oui, c'est vrai. Oui,
en danse-thérapie, pouvoir avoir encore plus d'outils, de clés, pour amener justement les ateliers que je menais à bien, les ateliers que je fais déjà depuis longtemps, et en particulier donc, au CCAS depuis l'an passé. Où nous avons maintenant, j'ai une douzaine de danseurs et de danseuses seniors, et tout le monde peut venir essayer. J'en profite, Jean-Philippe. Mmh. Tout le monde peut venir essayer. Les retraités de Dax peuvent venir essayer ce cours du vendredi matin au CCAS, un cours de danse inclusif. C'est très frais, très joyeux. Mmh. Et puis, effectivement, je travaille aussi depuis longtemps dans les résidences pour seniors. À l'hôpital thermal également, et je diffuse des ateliers de gym douce, des ateliers de méditation, de sophrologie, d'hypnose aussi, parce que je suis hypnothérapeute, à Thermadour, dans le cadre de la récupération du programme cancer du sein, et également dans le programme fibromyalgie avec de la danse bien-être. Voilà, danser.
Oui, c'est ça. C'est
le mot, même en fauteuil roulant.
C'est le mot qu'on aura prononcé le plus aujourd'hui.
Même en fauteuil roulant.
Même en fauteuil roulant.
Même si on peut bouger que les bras, aucune main, qu'importe.
Même la danse à deux toutes seules, comme les épouses en Argentine aussi. Voilà, c'est moins gay, mais c'est vrai que dont parlait Sting dans The Dance Alone.
Tout à fait.
Et aussi l'époux de cette professeure qui a été tuée, qui dansait tout seul alors qu'il faisait de la danse avec elle. Moi, c'est une image qui m'avait marqué aux informations.
Oui,
c'est une enseignante qui avait été tuée.
À Bayonne. On la connaissait indirectement.
Ouais, voilà. Donc, c'est assez émouvant de voir ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Ça a été très fort, ce moment. Oui, en effet.
Voilà. On va faire une dernière pause. On va écouter encore un petit peu de musique et on attendra la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà la dernière partie de cette émission. Bon, si les gens n'ont pas compris qu'on parlait de danse aujourd'hui, j'aurais loupé mon objectif, je crois. Alors, on n'a pas parlé d'une chose. Il y a un festival que vous nous mijotez, là.
Oui, alors la 4e édition de Tango sous les pins, à Léon, dans les Landes. Donc, on organise avec une autre collègue, donc avec mon mari, donc c'est ce festival de 3 jours, le 5, 6 et 7 juin prochain. Avec du tango argentin. Et donc, c'est un événement qui nous tient à cœur parce que le tango argentin, c'est une de mes passions également. Et ça réunit des danseurs locaux, mais aussi de tango argentin, mais aussi des danseurs d'autres départements. Donc, de Bordeaux, département du Var, de Paris, de Limoges. Enfin, on se retrouve sur 3 jours pleins au village sous les pins. À Léon, donc on fait venir des DJ de tango qui nous font danser jusqu'au bout de la nuit pendant 3 jours. Et puis il y a des ateliers bien-être que j'anime, mais aussi des cours de tango également que nous animons avec mon mari et avec donc d'autres collègues également. Donc voilà, c'est un grand moment et c'est la 4e édition et on est très fiers de faire perdurer cet événement.
Alors, tango d'origine argentine, alors je me demandais si votre nom de famille, en partie hérité de votre époux, était d'origine argentine.
Alors non, il est d'origine espagnole.
Bon, c'est pas loin.
On n'était pas loin.
Moi, je m'étais posé la question, on ne sait jamais. C'est vrai que...
Tout à fait, donc mon mari est d'origine espagnole et a eu à peu près le même parcours que moi en danse. Somme toute, j'ai envie de dire, c'est un parcours normal quand on devient professionnel de la danse, c'est-à-dire commencer assez jeune, se former, passer par la case peut-être de la danse classique, dans tous les cas de la danse contemporaine, moderne jazz, exploration, on est toujours des chercheurs de toute façon, exploration dès l'enfance, de la musique, passer des diplômes, et puis pour le tango argentin... aller à la Mecque du tango à Buenos Aires, bien sûr. Mon mari a fait une immersion de 6 mois, entre autres.
Ah ouais, un pèlerinage.
Très souvent en Argentine. J'ai été en Argentine plusieurs fois avec lui aussi.
Oui.
Et puis des stages, travailler avec des maîtres, une transmission d'héritage très important. Qui crée aussi notre expérience. La musique, qui est très riche.
Oui, la musique.
Une culture immense, un héritage immense. Donc c'est vrai que c'est une passion, vraiment une passion de pouvoir transmettre. Et puis c'est une danse, comme on a parlé de tangothérapie tout à l'heure, c'est thérapeutique, c'est, ça fait du bien au cœur, au corps, à l'âme.
Alors vous parliez de danse de couple, le tango c'est vraiment, vu de l'extérieur, sans être un danseur en tango, on perçoit ça un petit peu entre le duo et le duel. parce qu'on dirait qu'il y a à la fois un affrontement et à la fois une...
Alors c'est plutôt une conversation, dirais, mais effectivement
pas
chacun...
Pas forcément une dispute, une
conversation. Oui, mais chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir, c'est le but de la danse, c'est de faire travailler... De faire travailler l'imaginaire de chacun dans toutes les danses qui existent. Qu'est-ce qui ressort des couples en général, ce que les gens nous disent, c'est ce côté élégant, ce côté sensuel. Nous, comment on le vit à l'intérieur, une communication permanente, extrêmement complice et intime avec l'autre, puisqu'on est quand même avec un rapprochement des corps, puisque c'est le corps de l'homme qui donne le guidage en fait à la partenaire. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intimité, c'est presque cellulaire, on va dire. On est dans l'odeur de l'autre, dans sa respiration, et puis on est extrêmement connecté à la musique. C'est la musique, c'est le ménage à trois, le tango argentin, c'est l'homme, la femme, la musique. Donc, et c'est vrai que les gens qui pratiquent le tango et qui nous suivent depuis très longtemps, que ce soit sur Bayonne, sur Saint-Paul-et-Dax ou sur Tarbes où nous enseignons, le disent, que c'est, on a des témoignages de femmes qui arrivent à réaffirmer leur féminité, d'hommes qui prennent plus de confiance, de bouger son corps, parce que mine de rien, c'est quand même une activité corporelle assez intense, qui mobilise pas mal de segments corporels. Et puis, c'est une forme de méditation. On est à l'écoute de l'autre, on est dans l'instant présent, connecté à la musique. Et c'est pour ça que c'est thérapeutique et c'est pour ça que le tangothérapie existe.
Très bien. Je crois que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine, d'être venue nous parler de votre passion.
Parce que, avec plaisir, Jean-Philippe.
De tout ce que vous faites. Et puis, on nous a fait découvrir aussi le côté inclusif et que tout le monde peut danser.
Voilà. Tout à fait. Inclusif ne veut pas dire réducteur ou péjoratif.
Non, non, non.
Ça veut dire tout le monde peut danser à n'importe quel âge. Et je vous invite à danser. À me rejoindre ou rejoindre un groupe de danse.
Très bien. Très bien. Bon, on mettra un lien forcément avec le podcast qu'on pourra retrouver à l'issue de cette émission. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. À bientôt.
Merci de m'avoir invité, Jean-Philippe, et à bientôt. À bientôt à tous.
Au revoir.